Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens très large, tous les médias et toutes les formes de culture. Il était une voix. C'est en une de l'équipe, le quotidien du jour. Écoutez cette voix, il y a seulement 2 syllabes. Et pourtant, cette voix, on la reconnaît entre 1000. Vous avez reconnu le grand Eugène Saccomanno, voix du foot sur Europe 1 et ailleurs, immense homme de radio qui nous a quittés hier et à qui on va rendre hommage en compagnie de Denis Brognard qui l'a fait débuter ici à Europe et de ses copains plus anciens comme Jacques Vendroux ou Dominique Grimaud, François Barouin, grand amateur de football, sera également avec nous. Et puis notre info média du jour, David Pujadas qui redonne des couleurs à LCI et qui propose demain soir la grande confrontation consacrée à un sujet inflammable, les retraites. Elle est loin de la retraite, Enora Malagré, la blonde incendiaire au débit de mitraille qui revient à la télé, au théâtre et qui publie Le cri du ventre. Elle raconte sa maladie qui touche une femme sur 10, plus de 4 millions de Françaises. Elle est la première cause d'infertilité en France et dont personne ne parle ou presque, cette maladie, l'endométriose. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bourdel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereau de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
On commence par vous et par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier?
Eh bien hier, j'ai 2 gros cartons à vous signaler. Ah. Le premier concerne TF1. TF1 qui s'est classé en tête des audiences hier soir avec le téléfilm inédit Le Premier Oublié avec Matt Pokora qui faisait ses premiers pas en tant que comédien et Muriel Robin que vous receviez hier dans ce studio.
On leur a porté chance.
Exactement.
Comme souvent.
Et une très grosse chance même parce que 6 200 000 téléspectateurs ont suivi ce téléfilm. Film sur un fils qui vient en aide à sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. 28,1% du public sait et de très loin le plus gros carton d'un téléfilm français sur TF1 cette saison. M6 se classe deuxième avec la suite de la saison 14 de L'Amour est dans le Pré, l'émission présentée par Karine Lemarchand. C'était la 7e soirée hier et 3 200 000 fidèles étaient encore au rendez-vous, 14,7% de part d'audience. L'Amour est dans le Pré qui résiste donc plutôt bien à la concurrence de TF1.
Et alors qui est troisième, la 2 ou la 3?
Eh bien c'est la 2, qui démarrait la diffusion de The Victim, une nouvelle mini-série britannique toute droit venue de la BBC. Et un peu moins de 2 millions de curieux ont suivi les 2 premiers épisodes de ce thriller. 9% de part d'audience, c'est pas terrible. Et France 3 est quatrième au pied du podium avec un documentaire historique d'Hugues-Nancy consacré à la France de la Belle Époque, cette période qui précède la Grande Guerre. Et 1 600 000 téléspectateurs ont plongé dans des archives inédites et en haute définition de la France du tout début du XXe siècle. C'est 7,1% de part d'audience.
Des archives recolorisées et la haute définition est nouvelle parce qu'évidemment, ça n'existait pas
exactement,
à l'époque. Du
exactement.
Côté des autres chaînes, vous nous avez annoncé un gros carton.
Oui, c'est un gros carton de W9, la petite sœur de M6, W9 qui talonne France 3 avec le film Die Hard 4, Retour en Enfer et 1 600 000 téléspectateurs, 7,5% du public, ont passé la soirée devant W9.
Merci beaucoup Pierre Desereau, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Bourdel.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Bourdel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Comme chaque jour, on fait avec vous un tour de l'actualité des médias. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin?
Le menu du jour, la voix du foot, la voix du gendarme, la voix de Trump et l'œil de YouTube.
Europe 1 lui rend hommage depuis hier soir. C'était une des grandes voix du foot français. Le journaliste Eugène Saccomanno est mort hier à l'âge de 83 ans.
Une voix que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien. C'est lui qui, en 1996, lance l'émission quotidienne Europe Sport sur 7 antennes. Il est récompensé en 2000 du prix de la meilleure émission de radio pour le match du lundi. Et parce qu'on ne pouvait pas se priver d'une de ses formidables envolées pour ouvrir ce journal, voilà qui rappellera un des grands moments de l'histoire du football français.
But de but ! Basile Boli, notre brave Basile. Marseille est champion d'Europe. Je vous le dis, Marseille est champion d'Europe. C'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une équipe remporte la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est fabuleux. Marseille heureux. Marseille euphorique ce soir.
Et oui, les supporters de l'OM ne s'en sont toujours pas remis.
Non, ça vaut Paris libéré. Non, mais quel plaisir. Saccomanno, on en reparle dans notre journal. Il y aura Jacques Vendroux, Dominique Grimaud, 2 journalistes qui l'ont bien connu, et également Denis Brognard, que Saccomanno avait fait débuter ici à Europe 1. Tout autre sujet, Cyril, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a présenté hier une étude sur le comportement des consommateurs de vidéos en ligne.
À l'heure de YouTube, Netflix, Facebook et autres Snapchat, c'est intéressant de se demander si ceux qui regardent des vidéos sur Internet reproduisent des vieux schémas. Et la réponse, eh bien, est oui. À en croire le CSA et un laboratoire de recherche de l'Université de Rennes, les habitudes ont la dent dure et les profils entre téléspectateurs de télé ou amateurs de YouTube se recoupent étonnamment. On écoute Hervé Gocho, membre du CSA, qui a présenté hier cette étude.
Il y a un certain nombre de comportements qu'on retrouve. Celui qui va décider avant de dire « je veux voir tel ou tel programme » avant même d'allumer son ordinateur ou sa télévision. Il y a le zapper fou. Il y a celui qui va partir d'une idée et puis qui finalement va se laisser emporter, va zapper une partie de la soirée jusqu'à ce qu'il s'arrête sur un programme qui lui convient. Ce sont des comportements de téléspectateurs qu'on retrouve, que ce soit devant la télévision linéaire ou qu'on retrouve devant les contenus audiovisuels en ligne.
Une des choses intéressantes qui ressort de cette étude, c'est que sur Internet, on cherche moins une chaîne ou une radio plutôt qu'un programme, avec le risque que l'éditeur du contenu disparaisse totalement. Alors, est-ce que bientôt tout ce vaudra un journal d'information comme un youtubeur complotiste ?
Ça va dépendre déjà de l'attitude du consommateur lui-même au départ. Est-ce qu'il sait précisément ce qu'il cherche ? Est-ce qu'il cherche le dernier épisode de The Voice ou le dernier épisode de Plus belle la vie ? Ou est-ce qu'il cherche une vidéo d'un chat qui fait du skateboard ? La manière de rechercher ne va pas être la même et ne va pas conduire forcément au même contenu ni aux mêmes marques. Et là-dessus, je pense qu'il y a une forme, sans employer des grands mots, d'éducation des consommateurs à l'environnement dans lequel ils évoluent quand ils ouvrent leur ordinateur ou leur tablette ou leur télévision connectée.
Hervé Gocho, membre du CSA, et cette éducation devient de plus en plus impérative. Rendez-vous compte, en 2015, nous passions 3 heures devant des vidéos sur Internet. L'an dernier, c'était 5 heures. Et cette courbe-là est vraiment, vraiment loin de s'inverser.
Cyril, hier, sur les réseaux sociaux, s'est répandue une étrange rumeur. Le sida aurait été éradiqué.
Et c'est Donald Trump lui-même qui l'annonçait.
Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done.
Évidemment, le roi de la fake news racontait encore une fake news, mais cette fois, ce n'est pas de sa faute. C'est Solidarité Sida qui a réalisé ce trucage absolument stupéfiant, où on voit et entend le président américain dire qu'il a éradiqué le sida. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une vidéo deepfake. Luc Barouet, le directeur et fondateur de Solidarité Sida, raconte comment ils ont mis sur pied cette vidéo.
Le deepfake, voilà, c'est de l'hyper-trucage. Et donc, on a pris une vidéo d'un discours originel de Trump et on a sélectionné un comédien qui est venu enregistrer en studio. Et après, pendant plus de 15 jours, il y a 3 énormes ordinateurs en Angleterre et aux États-Unis qui ont mouliné pour essayer de remettre ça d'alignement et obtenir ce résultat assez exceptionnel. Hein, soyons clairs, c'est révolutionnaire.
Luc Barouet au micro de Louise Bernard. Problème à jouer avec la réalité. Est-ce qu'on ne risque pas soi-même de rendre encore plus flou les frontières entre vérité et mensonge ? Moi-même, hier, en découvrant cette vidéo, j'ai pensé que c'était encore une sortie un peu folle de Donald Trump.
Si on avait peur que ce soit contre-productif, on ne l'aurait pas fait. Par contre, effectivement, on a quand même pris un risque. Le risque, on l'a mesuré. Et à notre niveau, ce qui était important, c'est que la révélation se fasse dans le même film. Et bien effectivement, sur les réseaux sociaux, une partie du public n'a pas été jusqu'au bout de la vidéo et a peut-être pas compris que l'information comme quoi le sida était terminé était une fake news. Et j'ose espérer que si les gens ont pris ça au sérieux, ils sont très très vite rendus compte que tous les médias n'en parlaient pas. Et si jamais on en était arrivé à la fin du sida, je pense que tout le monde en parlerait toute la journée sur tous les médias. Donc le risque, on a considéré qu'il était quand même très limité.
Le coup de com', lui, est parfaitement réussi. Sur Twitter, la vidéo a été vue 1 200 000 fois déjà.
Et moi aussi, je me suis laissé prendre. Et pour tout raconter, c'est qu'à la fin de la vidéo, il y a Antoine de Caunes, qui est le président d'honneur de Solidarité Sida, qui raconte que tout ça est du faux et que le sida, malheureusement, n'est pas éliminé. Cyril, on va terminer avec un prof de maths qui veut corriger Demain nous appartient et qui se fait taper sur les doigts.
Petite histoire amusante que nous relate le journal Sud-Ouest. Un prof de lycée, visiblement amateur du feuilleton quotidien de TF1, constate stupéfait qu'un personnage homologue de Demain nous appartient donne un cours de maths et raconte n'importe quoi.
Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ?
Oui, il commet même 3 erreurs. Du coup, que fait notre enseignant du lycée d'Autet de La Rochelle ? Il reprend la vidéo et entreprend d'en corriger 20 secondes. Que n'allait-il pas faire là ? 2 heures après, la sanction tombe, la vidéo est retirée, la demande de TF1, droit d'auteur oblige. À la lecture de cette information partagée hier midi par Philippe Vandel ici présent, ouais. Mon sang ne fait qu'un tour, je lance une enquête, je contacte TF1 et figurez-vous que tout ça, c'est la faute aux algorithmes. Le petit ordinateur de YouTube a repéré tout seul qu'il y avait fraude fraude au droit d'auteur et fait supprimer la vidéo du prof de maths, certes pointilleux, mais fraudeur.
Mais l'ordinateur, l'algorithme, il n'a pas fait retirer la faute dans l'exercice de maths.
Non, pas du tout.
Il y est toujours. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On se retrouve demain sans faute.
Sans faute.
Dans un instant, l'info média du jour avec David Pujadas qui viendra nous parler de son émission La Grande Confrontation. C'est demain soir sur LCI, le premier grand débat entre les Français et le gouvernement sur la réforme des retraites. On en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est leur Philippe de l'info média du jour.
LCI, la chaîne d'info continue du groupe TF1, remonte la pente après l'erreur historique d'avoir refusé d'aller sur la TNT. Désormais, elle y est. Et elle vient de repasser devant CNews. Alors certes, le chemin est encore long, mais pour donner une idée de l'enjeu, elle vise, LCI, les 1%. Parmi les satisfactions de la chaîne, 24h Pujadas, c'est lui également qui avait présenté la grande confrontation, un grand débat au moment de la crise des Gilets jaunes. L'expérience avait été concluante et l'émission revient. Bonjour David Pujadas.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. Vous avez instauré un nouveau format le soir en prime time, la grande confrontation. On va en parler, mais avant de parler du contenu, la question de l'horaire, ça sera demain à 20h45. 20h45 pour les chaînes traditionnelles, c'est ce qu'on appelle le prime time, le meilleur horaire. Est-ce que c'est également le cas pour les chaînes d'info qui sont encore pour beaucoup des chaînes de complément?
Sur la durée, non, c'est pas le prime time, mais c'est vrai que pour LCI par exemple, le prime time c'est plutôt entre 18 et 20, en tout cas c'est l'heure de la plus forte audience, c'est la tranche que je produis. Pour d'autres chaînes, la chaîne leader, BFM, c'est le matin, par exemple. Donc ça varie d'une chaîne à l'autre. Mais pour un gros rendez-vous, très fort, comme l'a été la grande confrontation 6 fois la saison dernière, là, c'est le prime time, c'est le même moment que les grandes chaînes, parce que c'est une émission très forte, on a été à plus d'un million la saison dernière, et donc là, on y va, on se mesure à part égale avec les autres.
Et évidemment, vous démarrez à 20h45 pour faire de la contre-programmation, pendant que les autres sont en pub.
À 20h45, oui, on est encore dans la pub au début. Mais enfin, le calcul, honnêtement, n'est pas fait spécialement là-dessus.
Alors maintenant, le fond, vous recommencez ce soir autour des retraites. Titre, la grande confrontation aux retraites, où allons-nous? Avec quel invité? Quel sera le dispositif?
Alors, l'idée de la grande confrontation, c'est que c'est les Français, ce sont les Français qui ont la parole. Donc là, c'est un format politique qui tranche avec les autres émissions. Moi, j'ai créé, animé pendant des années des Paroles et des Actes, puis l'émission politique, c'était un invité politique en majesté. Ça a toute sa place. Mais là, après les Gilets jaunes, avec les Gilets jaunes, on a senti le besoin que les Français s'expriment. Ils s'expriment directement et ils interpellent un responsable politique. Donc là, vous vous posez des questions sur l'avenir des retraites, je me pose des questions sur l'avenir des retraites, et bien les Français vont pouvoir les poser, des enseignants, des aides-soignants, des salariés du privé, des chefs d'entreprise, des retraités eux-mêmes. On a un médecin de 94 ans qui sera là. Et il s'adresse à Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire monsieur retraite au gouvernement, celui qui conduit la réforme, pour toutes les questions, parce qu'on n'y voit pas clair sur cette réforme des retraites.
Combien d'invités ?
Une quinzaine.
Une quinzaine.
C'est un dialogue direct, c'est un dialogue sans filtre, c'est vraiment ça l'idée. Il se passe quelque chose dans ces émissions parce que c'est la vérité de la parole des Français.
Vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de monde sur le plateau ?
Mais quand vous faites une émission qui fait 2h30 sur un thème unique, vous avez le temps. Et là, on a le temps. Et si vous voulez, il y a tellement de professions concernées par cette réforme des retraites que là, ça se justifie. Quand vous faites plusieurs thèmes, quand ça part dans tous les sens, là, il ne faut pas trop d'invités. Là, on a le temps d'y aller. On l'a fait la saison dernière, plusieurs fois avec ce format. Et si vous voulez, voilà, il y a une ambiance de, je ne dirais pas de droit de réponse, mais c'est un peu l'idée. C'est la parole est libre, totalement libre, et on y va.
Je voulais dire le sens de ma question, c'est que France 2 a relooké l'émission politique que vous connaissiez bien, qui a été transformée en Vous avez la parole. L'invité de la première, c'était le 19 octobre dernier, c'était Xavier Bertrand. Et autour, ils avaient fait justement tout un aéropage, plein d'invités, 16 personnes autour de lui, je vois que ça vous fait sourire, puisque l'audience n'était pas au rendez-vous. 1,27 million de téléspectateurs, seulement 7,2 de part d'audience, très loin du premier numéro de la saison. Et ce qui ressortait de ça, c'est que c'était un gros, gros fouillis.
Mais si vous voulez.
Et justement, ils avaient la même expression que vous, David Pujadas, stop à l'invité en majesté.
Oui.
Il a tellement été peu en majesté qu'il a été en minorité et les gens n'ont pas regardé.
J'ai beaucoup d'affection pour mes camarades de l'émission politique avec qui j'ai passé une année très heureuse. Mmh. Donc,
non mais là on parle pas des gens, je parle du format, c'est ça le sens de ma question. Si on voit que ce format plaît moins que un invité en majesté. C'était le sens de ma question.
On en a fait 6 l'an dernier. Il y a eu notamment 2 ou 3 émissions qui ont vraiment fait date parce qu'il s'est passé des choses. Quand il y avait Édouard Philippe face aux Français, quand il y avait le premier dialogue entre les Gilets jaunes et les membres du gouvernement, on a l'expérience de ça, on a créé ça. C'est normal après, quand il y a une idée qui est sur la table, que les autres s'en saisissent. Voilà, pour eux, ça a été moins réussi.
Vous voulez dire qu'ils vous ont copié ?
Non, bah parce que cette idée-là, je ne l'ai pas inventée, je l'ai repopularisée, je l'ai ressortie d'une certaine de manière des cartons, mais ils trouveront leur chemin. Moi, je suis sûr qu'il y a un avenir pour ces émissions-là. Et...
Alors, je peux vous dire, selon nos infos, France 2 revoit en ce moment sa copie. La prochaine, ce sera le 17 octobre et l'invité principal va exister davantage. Il y aura un seul thème de débat, moitié moins d'intervenants et le retour du débat d'éditorialiste en deuxième partie.
Il y a de la place pour tous les formats. Donc France 2 choisit un format plus institutionnel. C'est peut-être la place d'une chaîne de service public. Nous, même si on remplit une mission de service public, on fait un tout autre choix. Encore une fois, moi j'ai fait ces émissions-là pendant des années avec beaucoup de plaisir. Là, on fait quelque chose de différent.
Vous recevez Jean-Paul Delevoye demain. Il est haut-commissaire aux retraites en charge de la réforme au gouvernement. Il était difficile à convaincre. Je peux vous dire, moi j'irai pas sous un tir croisé de 15 personnes qui m'attendent avec un bazooka. Comment vous avez réussi à le convaincre ?
Je pense qu'il n'a pas le choix. Cette réforme des retraites, c'est
on a toujours le choix.
Pardonnez-moi,
on a toujours le choix. Vous connaissez la télé comme moi, on a toujours le choix de ne pas aller dans une émission.
Oui, mais je pense que ils sont obligés de convaincre. Et pour convaincre, il y aura les grands débats façon Emmanuel Macron, et puis il y aura les grands débats télé version Jean-Paul Delevoye. Peut-être que Édouard Philippe s'y mettra aussi. Mais si vous voulez, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller à la confrontation d'idées avec les gens qui sont concernés. Donc, facile à convaincre, peut-être pas, mais je pense qu'il y a aussi un sens du devoir. Si on n'y va pas là, on n'y arrivera pas.
Comment vos audiences ?
Bah écoutez, les audiences, c'est une rentrée inattendue et formidable, puisque 24 heures, l'émission que je produis, était leader toute chaîne info en septembre. Donc entre 18h et 20h.
Je peux vous le dire, sur le mois de septembre, 170 000 téléspectateurs en moyenne, plus 37% entre septembre 2018 et septembre 2019. Alors j'ai regardé les courbes d'info, toutes les chaînes d'info montent. Ça veut dire qu'il y a une appétence pour l'information. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous.
Il y a une appétence pour l'information. Je pense que nous marquons des points grâce à la pédagogie. Vous savez, des débats à la télé, il y en a plein. Mais savoir de quoi on parle au préalable, c'est mieux. Et nous, on a un format qui nous permet, sur chaque thème, de faire... La grande présentation avec le journaliste devant le grand écran sur 4-5 minutes, les chiffres, les comparaisons, les faits. Et ça, c'est notre marque de fabrique.
Vous me disiez, en entrant dans ce studio, on a eu 30 secondes pour papoter et vous m'avez dit, le débat à la télé, ça a été inventé par Eugène Saccomanno.
Alors, je disais, le talk foot à la télé, ouais. Je pense que c'est lui qui l'a invité sur LCI.
Ah, parce que moi, c'est à ça que je pensais quand vous disiez tous les gens qui parlent sans savoir, sans connaître leur sujet. Et on en a vu sur plein de chaînes, je ne vais pas les citer, mais on a tous vu des débats avec des non-spécialistes qui avaient des avis tranchés.
Oui, et puis surtout, les gens sont facilement perdus. On parle de choses qui sont quand même souvent complexes. Si vous ne mettez pas les choses à plat, d'abord les faits, rien que les faits, et ensuite le débat... Souvent, vous perdez les gens en route. Eugène, je pense qu'il a inventé ça, le talk foot à la télé. Il le faisait à la radio depuis des années, il l'a fait à la télé.
David Pujadas avec nous, on va parler tout à l'heure d'Eugène Saccomanno. On reste ensemble dans Culture Média.
Oui, c'est David Pujadas qui est l'invité de Culture Média. Dans l'info média du jour, on parle de son actualité et notamment de son émission La Grande Confrontation, demain soir sur LCI, émission où les Français ont la parole et interpellent les politiques. Demain, le débat portera sur les retraites, la réforme des retraites. On en reparle juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est la suite de l'info média du jour avec notre invité David Pujadas, Philippe.
Oui, David Pujadas qui va présenter la grande confrontation retraite, où allons-nous ? Ça sera demain, mercredi, sur LCI à 20h45. David Pujadas, merci de rester encore avec nous quelques instants. On va parler d'Eugène Saccomanno, mais une chaîne de télé. C'est comme les grands clubs de foot, il faut des stars. Vous avez vraiment re-signé un contrat de 3 ans ?
J'ai signé un contrat de 3 ans de production et d'antenne, puisque avec Particule Production, ma société, c'est moi qui produis l'émission. J'ai signé un contrat de 3 ans, mais chacune des parties peut à tout moment y mettre fin.
Oh, dis donc, il va être content d'entendre ça. Non,
ah non, mais c'est valable pour eux aussi. Hein.
Ah bon, d'accord.
C'est réciproque.
Non, ne nous faites pas un plan à la Neymar.
Par définition.
Je ne sais pas si là, s'il reste.
C'est un bon garçon.
Voilà. Ai-je besoin de vous le présenter ? Il vient de s'installer dans ce studio. Denis Brognard, vous êtes dans le même immeuble désormais.
TF1, LCI, effectivement.
Sous le même toit, vous LCI, TF1. Bonjour Philippe.
J'avais déjà passé quelques années sous le même toit avant, une vingtaine d'années.
Exactement.
On est des vieux
compagnons. Ça ne nous rajeunit pas.
David Pujadas disait que Eugène Saccomanno avait inventé les émissions de débat foot à la télévision. Vous, Denis, vous l'avez connu ici, à Europe 1. C'est Saccomanno qui vous a engagé.
Exactement, au début des années 90, c'est un moment incroyable puisque à l'époque, il y avait un journaliste de l'événement du jeudi qui avait écrit un gros pavé sur l'histoire d'Europe 1. Ouais. Et dans ce cadre-là, Eugène Saccomanno intervenait dans une conférence pour faire un peu la promo de ce bouquin. Et moi, j'en avais rien à faire du bouquin, mais je voulais absolument rencontrer Eugène Saccomanno. Et j'étais allé le voir à la fin de la conférence. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça à cette époque-là. Je venais ma carte, j'avais pour la première fois une carte de visite. Il m'avait dit venez me voir mardi, ça m'intéresse quelqu'un pour commenter les matchs à Caen. Il n'y avait pas de cassette, il n'y avait pas d'internet à l'époque. Il ne m'a pas demandé de cassette, il ne m'a rien demandé. Je lui ai simplement dit que moi, j'avais travaillé à Radio France en région, mais je n'avais jamais commenté le football à ce niveau-là. Ouais. Et il m'a dit, samedi, vous faites Caen Saint-Etienne pour le multiplex.
Sur sa bonne mine.
Voilà. Ouais. Et je suis certain qu'il n'avait pas appelé le rédacteur en chef à Caen. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière ici. Et ça restera un souvenir absolument impérissable. Mais c'était ça aussi, Sacco. C'était la confiance, c'était le regard. On se tapait dans la main. Il n'y avait pas besoin de papier, il n'y avait pas besoin de signature.
Quand vous avez démarré ici à Europe 1, enfin c'est d'autres locaux, c'était rue François 1er, vous étiez jeune journaliste. Ouais. Il y avait un autre jeune journaliste qui démarrait. Depuis, il a fait de la politique. Et quelle carrière, vous savez quoi, il est avec nous. Bonjour François Baroin.
Bonjour.
Vous avez vraiment démarré avec Denis Brognard?
Oui, j'ai démarré avec Brognard, avec Sacco, avec Escolovitch, avec Pierre-Louis Basse, avec François Clos, avec toute cette équipe.
Saccomanno, c'était quoi? C'était qui pour vous? Quel souvenir en gardez-vous, François Baroin?
Un souvenir très fort. Je suis arrivé, j'étais jeune reporter. Il était au fond de la rédac, là, avec cet open space rue François 1er.
Dans son petit bureau,
là, au fond.
Il sortait
comme un diable de son bureau. Et il était qui, toi? Je lui dis, je vais faire le flash. Il me dit, n'oublie jamais, hein, quand il y a un match nul 0-0, tu dis jamais 0 partout.
La première leçon. Et ensuite,
la première leçon, mais il était généreux, il était gentil, sensible, il avait une culture incroyable, c'était une personnalité formidable qui m'a beaucoup marqué, comme toute cette équipe de journalistes.
Ouais, à l'époque, vous étiez journaliste pas spécialisé sportif, vous étiez journaliste infogéné.
Ah oui, j'étais infogéné, je faisais les week-ends, je faisais 3-4 bobineaux par samedi, par dimanche. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait comme Denis, de pouvoir faire le multiplex. Bon, je ne sais pas, c'était Caen Saint-Etienne, j'aurais peut-être préféré 3 Auxerre, un truc comme ça.
Et sinon, Saccomanno, c'était également un fou d'info, parce qu'il avait démarré à la Provence, il faisait des papiers d'infogéné. On en parlera après, mais il a même écrit un livre sur le milieu marseillais, sur les caïds, avant de se spécialiser dans le sport. Vous parliez d'info avec lui également?
Mais il avait une culture universelle, culture littéraire, il était passionné de Céline, il était passionné des grands auteurs, un homme du Sud rocailleux, une personnalité chaleureuse. Et puis, il donnait des conseils, il engueulait, mais c'était toujours bienveillant, gentil, délicat. Et je me souviens, quand je lui ai dit j'allais faire de la politique, il m'a dit « Tu vas où ?» Je lui ai dit « Dans l'Aube ». Il me dit « Oh là là, c'est le coin le plus moche de France, ces grandes plaines, la nuit qui tombe dans un grand fracas à 17h pendant l'hiver, tu vas te faire chier. » Parce qu'il faut dire que pour Saccomanno, tout était au nord de Marseille.
Ah ouais.
Voilà. Donc dès qu'on dépassait les quartiers nord de l'Estac de Marseille, il faisait froid.
Et puis il aimait bien la vie nocturne. Il aimait bien sortir, c'était un bon moment.
Il passait, quand on faisait des flashs de nuit à minuit, 1h, de temps en temps il passait, il disait qu'est-ce qui se passe, et puis il reportait.
Denis Brognard, vous confirmez?
C'est clair, le nombre de fois où on a fait des matchs où on revenait ici avec la voiture d'Europe 1, vous savez, c'était une voiture où il n'y avait pas de siège à l'arrière et où on avait dans le coffre des joueurs de l'équipe de France qui ensuite allaient partager une bonne bouffe avec Sacco une fois qu'on avait terminé les papiers, comme il disait, les papiers du lendemain, et qui me disait tu finis, moi je vais dîner.
David Pujadas, quel souvenir vous gardez en tant qu'auditeur, en tant que téléspectateur de Eugène Saccomanno? Ouais. Vous ne l'avez pas connu, vous êtes croisé. Il est parti quand vous arriviez ou vice-versa?
Jean-Claude Dacier l'a fait venir à LCI juste après mon départ. Ce qui est étonnant, c'est quand au départ, vous entendez une voix. Eugène Saccomanno, c'était une voix. La voix qui part dans les aigus. Et tout d'un coup, vous mettez un visage sur cette voix. Souvent, vous pouvez être déçu. Ce n'est pas évident. Là, il avait une telle dégaine, le Saccomanno, qu'en lui-même, il portait déjà toute sa personnalité, rien qu'à le voir avec ses mimiques, avec sa, sa façon de se tenir, de mettre une épaule plus basse que l'autre. Donc après, le souvenir s'est modifié. J'ai gardé cette image-là, l'image physique de Sacco Mano.
Et il avait un regard d'enfant. Mais il avait un regard d'enfant, jusqu'au bout, c'est incroyable, il s'émerveillait de tout. François le disait tout à l'heure, mais c'est vrai, il a écrit sur Céline, il a écrit sur Giono, et il aurait aimé, c'est un peu son regret, il aurait aimé qu'on le reconnaisse aussi un peu plus pour ça, pour ses talents littéraires.
Pour l'avoir connu un peu, il aurait presque aimé entendre cette émission en son hommage. Merci beaucoup David Pujadas.
Avec plaisir.
Je le rappelle, la grande confrontation retraite, où allons-nous, c'est demain, mercredi sur LCI. Merci beaucoup François Baroin d'avoir été avec nous en direct. Vous jouez toujours au foot, François Baroin?
Non, les terrains sont trop grands à mon âge.
Et il joue très bien au tennis aussi.
Ah bon, mais là on était sur le foot. C'était Denis Brognard qui a fait cette intervention. Culture Média continue.
Oui, hommage au journaliste sportif et commentateur Eugène Sacco Mano. Cette immense voix du football nous a quittés hier. On continue à en parler avec nos invités. C'est sur Europe 1 et c'est dans Culture Média.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
Il a commenté des milliers de matchs sur Europe 1, inventé le talk show de sport. Sa voix était indissociable du football. Hommage ce matin à Eugène Sacco Mano dans Culture Média sur Europe 1, Philippe.
Mais oui, cette immense voix du sport qui s'est éteinte hier, compagnon de route d'Europe. Eugène Sacco Mano au micro, c'était ça.
C'est Dugarry qui récupère Dugarry, qui le voit. Il va mener le contre-attaque et il y a trois Français qui partent sur la contre-attaque. Notamment Emmanuel Petit. Petit qui va marquer le troisième but. Et troisième but, 3-0. La France est championne du monde, l'équipe de France est sur le toit du monde, fantastique victoire, ça y est, c'est fini.
Il n'avait plus de doigts à la fin.
Non mais il est capable de monter dans les aigus, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait du bien de rendre ça?
Quel souvenir vous gardez, Denis Brognard, de cette Coupe du Monde avec Sacco en 98?
Bah, notamment les matchs de préparation. Vous vous souvenez de ce match avec ce but incroyable sur coup franc de Roberto Carlos, France-Brésil à Lyon? Et moi j'arrivais de Paris, lui il était déjà à Lyon. Il pensait que j'allais amener le matériel pour passer en direct et lui pensait l'inverse. Donc finalement on n'a pas eu de matériel. Il a commencé à commenter au téléphone pendant que moi, il avait réussi à me dégoter des motards de la police pour aller en escorte jusqu'au bureau d'Europe 1 à Lyon pour récupérer le matériel et pour ensuite commenter tous les deux. Mais il a commenté depuis la salle de presse avec son téléphone à l'époque.
Pierre-Louis Basse est avec nous. Bonjour Pierre-Louis.
Salut.
Immense compagnon de route d'Eugène Sacco Mano. Question rituelle, quel souvenir vous gardez de lui? Vous avez travaillé de très très nombreuses années ensemble.
Oui, de très nombreuses années en effet. Je pense que c'est bien insister sur la voix dans un monde d'images. On dit parfois que l'image va nous engloutir. Sa voix était plus forte que l'image. Et je crois que ce qui est très beau depuis quelques heures, c'est qu'en définitive, on rend hommage, c'est vrai, à Sacco, bon, qui était un personnage pas seulement truculent, je le disais hier soir chez vous, mais qui était aussi un homme de passion pour le métier de rigueur, et surtout une voix. Et la radio, qu'on le veuille ou non, la radio depuis toujours, bah, c'est la voix, c'est l'imaginaire. Je suis frappé par les témoignages de très jeunes qui, via leurs parents, écoutaient la radio, faisaient leur rédaction peut-être de philo en écoutant Sacco, en écoutant nos matchs, puisqu'on en a commenté un paquet avec Denis également, et des Coupes du Monde. Et ça, je trouve ça très beau parce que c'est non pas un retour en arrière, mais c'est la démonstration qu'il y a des choses qui sont complètement pérennes. La voix, c'est l'imaginaire. La voix, c'est ce qui nous permet de dire « Ah !» Eddy Merckx a gagné, ou Poulidor est dans le coup, c'était hier, et puis aujourd'hui, c'est Neymar a marqué un but. Il avait compris qu'avec l'arrivée de l'image et de l'instant, et des milliers de matchs par week-end, il avait compris qu'il fallait inventer peut-être autre chose pour distraire et accompagner les auditeurs.
Ah bah tiens, puisque vous en parlez, Pierre-Louis, c'était un immense pro qui savait totalement travailler sa voix, la maîtriser. Il surjouait ou il était comme ça? On dit qu'il avait été très impressionné par le style des commentateurs radio argentins pendant un voyage en 77 en Argentine, justement, avec l'équipe de France de foot.
Oui, alors on avait eu une discussion, je me souviens, et on n'était pas tout à fait d'accord.
Allez-y.
C'est ça qui est intéressant. Il m'avait posé la question une fois comme ça, on discutait, et il me disait « qu'est-ce que tu en penses, toi des... ?» Et moi, je lui avais dit « bon, moi, mon cœur battait davantage pour des commentaires à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire vous vous mettez dans un stade, et c'est le spectacle qui vous traverse. Les Anglais sont très forts pour ça. » notamment la BBC ou aujourd'hui Sky News. Et Sacco, lui, c'est au départ une coquetterie, et puis ensuite une invention et quelque chose qu'il met en place. Et c'est très malin et c'est très fort. La culture du foot, il suffit de revoir le but du siècle de Diego Maradona quand vous tapez sur YouTube, et vous avez l'un des plus grands commentateurs hispanisants qui vous raconte ce but. Bon, bien sûr, c'est fabuleux. C'est ce qu'il a fait. Il a surjoué une image, mais il n'en avait pas besoin, car il avait une voix très, très, très belle.
Et comme vous engueulez à ce sujet, est-ce qui vous a convaincu, Pierre-Louis ?
Il m'a convaincu, non, parce que je vais vous dire quelque chose, mon petit Philippe. Ouais. C'est que si j'avais voulu faire du Sacco, j'aurais pas marché. Vous savez, c'est exactement quand vous vous retrouvez dans un cabinet à l'Élysée avec 28 mecs cravatés jusqu'au cerveau. Si vous dites que vous voulez leur ressembler, vous allez très vite ressembler à une potiche. Ouais. Donc, Sacco, moi, j'ai fait du basse. J'ai gardé ma place.
C'est là où vous
êtes à ma place. J'ai pris beaucoup de plaisir.
Si je peux me permettre un compliment, en faisant du basse, c'est là, franchement, vous êtes le meilleur de toute la France, je trouve.
Mais Philippe, ce qui était impressionnant aussi, c'est de voir. Ok, il surjouait un peu, ok, ouais. Il avait ce style, Sacco, mais il fallait le regarder quand il était dans une forme de transe, au moment où il y avait une belle action.
Ah ouais,
vous
il
avez
était comment en cabine?
Mais il gesticulait avec ses bras, il se levait, enfin, il était capable d'être totalement en transe. Souvenez-vous, vous l'avez passé tout à l'heure, mais le but de Boli en finale de la Coupe d'Europe, c'est un truc, là, il est dans un autre monde.
Il s'oublie et il dit mon base, il l'appelle de son nom. Jean-Pierre Montanet est avec nous, le rédacteur chef de l'émission, Jean-Pierre.
Alors moi aussi, j'ai connu Eugène Saccomanno et Pierre-Louis Basse, et Pierre-Louis est en ligne, je crois que c'est assez intéressant, parce que moi, j'ai été témoin aussi du couple Basse Sacco. C'était aussi une entité, ça, Sacco et Basse.
Racontez.
Parce qu'ils aimaient le foot, mais ils aimaient aussi la littérature, ils avaient des passions, c'était deux tempéraments différents. Effectivement, Basse était plutôt anglo-saxon, l'autre plutôt argentin, et il fallait les voir s'engueuler, les deux. C'était phénoménal, pour un match, mais aussi pour l'heure à laquelle on devait enregistrer un bobino, etc. C'était vraiment un couple indissociable. De temps en temps, dans l'amour et la fusion, et de temps en temps, pas dans la haine, mais dans le rejet. Tu me fais chier, Basse. Et il parlait comme il était à l'antenne, hein, Sacco.
L'intéressé, je veux l'avis de l'intéressé quand même. Pierre-Louis, vous confirmez ce que dit Jean-Pierre Montanet ?
Ouais, c'est vrai, c'est fou de se dire que j'étais hier avec lui et qu'il n'est plus là. C'est vrai qu'on a passé des moments, mais c'est ça la fusion et l'amitié professionnelle. Je vais vous raconter une anecdote, je pense qu'il faut, qui est bien du Sacco. Je ne sais pas si Denis était à ce match-là ce jour ou Jean-Pierre. Vous savez qu'il y a eu une période, les OM-PSG, c'était quelque chose. Vous pouvez même savoir que je me souviens d'un joueur très sympa qui est mort depuis, c'est Sassus, qui était au PSG,
Jean-Luc,
qui était un type très très chouette. Et il faut voir la haine qu'il y avait entre l'OM à l'époque, enfin les bisbilles, et puis je suis allé jusqu'à l'équipe de France. Et c'était du style, au sein de la même équipe, en équipe de France par exemple, Basse qui mettait un ballon en arrière vers Sassus et qui disait vas-y cours maintenant, va la chercher, alors qu'ils jouaient ensemble. Bref, là-dessus, pour vous planter le décor des haines qu'il y avait quand même entre l'OM et le PSG. Et un jour, il y a un match, un grand match, je ne sais plus lequel, et Marseille gagne. On va quand même pas se la raconter. Sacco était marseillais, il avait une passion pour l'OM, pour Giono, pour la littérature. On avait ensemble une passion pour la, y compris pour la littérature peut-être plus sulfureuse, mais que moi j'aime toujours, de Drieu à Giono et à Chardon.
Venez-en à l'anecdote, Pierre-Louis. Ne faites pas du Pierre-Louis Basse.
L'anecdote, c'est qu'il est, Marseille vient de gagner. Bon, ouais. Et il était journaliste jusqu'au bout, Sacco. Ouais. Hein. Attention, il faut rappeler ça. Hein. On n'a pas enfilé ensemble le maillot de l'équipe de France le soir de la finale. Il était comme ça. Et c'est aussi le
bon. Mais venez-en au fait, Pierre-Louis.
Bah, il est derrière son pupitre. Marseille vient de gagner. Il se baisse au parc. Je le revois encore à côté de moi. Il se baisse, il se planque sous le pupitre. Et il me dit « Putain, les amis, qui est ce connard ?» C'est-à-dire qu'il était heureux, comme un gamin, que Marseille ait gagné. Voilà.
Ça, c'est du Sacco. Et pour rebondir sur, il était toujours journaliste, moi j'ai aussi connu Sacco à Atlanta pour les JO de 96, et il y a une explosion. Et l'explosion, elle a lieu dans l'hôtel des journalistes, dans la tour. Et moi, Sacco, je le vénérais. Pour moi, c'était le parangon du journalisme sportif. Ouais. Et je me suis dit, une petite explosion comme ça, il va nous laisser nous démerder et il ne va pas s'en occuper. Non, il était au taquet, Sacco. Il prenait son téléphone, il voulait réagir, il voulait raconter les hypothèses de l'attentat. Il était à fond aussi sur d'autres sujets qui n'étaient pas sportifs. C'était vraiment un journaliste complet et effectivement d'en parler, c'est très émouvant.
Je dis merci à Pierre-Louis Basse, à très bientôt.
Salut.
Mon Pierre-Louis, on reste ensemble.
Salut,
Culture
Média,
on évoque encore la mémoire d'Eugène Saccomanno.
Oui, pendant plus de 40 ans, il a refait le match avec un style unique. Eugène Saccomanno nous a quitté hier. On lui rend hommage ce matin dans Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Pour beaucoup, sa voix est indissociable du football et liée aux plus belles émotions du ballon rond. Moi aussi, il y a de l'émotion. Eugène Saccomanno, surnommé Sacco, nous a quittés hier. On lui rend hommage ce matin dans Culture Média avec vos invités, Philippe.
Toujours en compagnie de Denis Brognard de TF1 et puis Jacques Vendroux, qu'il a très très bien connu, et Dominique Grimaud également. Enfin, tout le monde ici l'a bien connu. Il avait quasiment que des amis dans le métier. Vont nous rejoindre. Eugène n'a pas attendu le troisième but de la France contre le Brésil pour décoller. C'est cette archive absolument incroyable qu'on réentend à chaque fois avec le même plaisir. On ne va pas tout vous passer. Je voudrais juste vous faire entendre Sacco au micro d'Europe 1. C'était le deuxième but de Zidane. France-Brésil.
Djorkaeff qui tire le corner, attention, qui est l'arrivée, but ! Deuxième but de Zidane !
Deuxième but de Zidane !
Zizou, Zizou, Zizou ! Oh, Zizou, Zizou ! Zizou, Zizou ! Ce que tu nous fais, un deuxième but fantastique ! Il jaillit ! Il jaillit ! Sur ce corner, Zizou, qui cette fois était tiré du côté gauche, il est au premier poteau, et le président de la République brandit le bleu de France, brandit le drapeau !
Et il n'y a pas que Zizou qui a jailli, il y a également Jacques Vendroux. Bonjour Jacques Vendroux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Bonjour Dominique Grimaud.
Salut Philippe.
Merci d'être avec nous en direct. Question rituelle, vous avez le sourire d'entendre cette évocation et d'entendre la voix d'Eugène Saccomanno. Quel souvenir gardez-vous d'Eugène, Jacques Vendroux ?
Que des merveilleux souvenirs, parce qu'au-delà de ses qualités formidables de commentateur hors normes, c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant dans la vie. C'était quelqu'un qui aimait rire, qui ne se prenait pas au sérieux, qui adorait son métier de commentateur de football, mais qui, curieusement, enfin non, pas curieusement, mais qui avait des portes de sortie. Le cinéma, la littérature, je veux dire, il aimait les gens, il aimait la vie, il aimait Marseille, il aimait les footballeurs, etc.
Il aimait les femmes.
Ouais. Il aimait, enfin, c'était quelqu'un qui de toute façon était complètement hors norme. Et c'est pour ça qu'on est tous, très émus depuis hier dans la joie. C'est ça qui est incroyable.
Oui, Dominique Grimaud, la même question qu'à Jacques.
Oui, c'est une amitié de plus de 40 ans. C'est je ne sais pas combien d'heures d'antenne, de direct, de fou rire, d'engueulades qui n'étaient pas vraies, ouais, qui étaient fausses, de passes d'armes qui n'en étaient pas non plus. Beaucoup d'échanges sur le cinéma, ouais, la Cinecittà, le Fellini. Sur Céline.
Ouais.
Il a écrit un formidable livre, Le Goncourt 32, il y a une petite vingtaine d'années. En 32, Céline, Le Voyage au bout de la nuit, est battu au deuxième tour du Goncourt par Guy Mazeline pour Les Loups. Et pour Sacco, c'était juste un scandale. Voilà. Sacco, c'est un roman, en fait.
Ouais.
On pourrait écrire un roman.
Il a eu plusieurs vies,
ouais,
dont l'une des premières vies qu'on connaît très peu. Vous savez qu'il y a très longtemps, dans les années 50-60, il était tourneur à Marseille des stars du show business.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il était associé avec Bernard Genestard, qui après est devenu l'homme d'affaires de Michel Platini. Et il faisait tourner dans toute la Côte d'Azur les Hervé Villard, les Sylvie Vartan, les Johnny Hallyday, tout en étant journaliste, je veux dire, au Méridional. Et...
C'est quand il était à la Provence.
Ouais. À la Provence. Ouais. Et donc, il organisait. Donc, il faisait son métier de journaliste d'information générale, il n'était pas encore commentateur de foot, et puis il organisait des galas, et il y a ce fameux gala qui raconte tout le temps, c'est le jour où il avait convaincu Claude François de venir chanter dans une ville, donc tout était clair, net et précis, et à un quart d'heure, Claude François ne peut pas chanter parce qu'il a une extinction de voix, et il ne sait pas comment il faut faire pour rembourser les gens, etc. Enfin,
et il a fait comment ?
Comment
il a fait ?
Ben, il a remboursé. Et croyez-moi, ça lui prenait la tête.
D'un mot aussi, en 69, il avait publié le livre Bandit à Marseille, dont va être tiré le film Borsalino. Ouais. On dit que c'est pour ça qu'il a quitté Marseille, parce que les parrains voulaient lui couler les pieds dans le béton. Vrai, vous confirmez, Dominique Grimaud ?
Oui, et puis, confirme.
Et puis, c'est un immense journaliste.
Confirme aussi qu'il a écrit ce bouquin Bandit à Marseille au fin des années 50-60. Jacques Doré en a fait le film 10 ans après, et que Sacco a dû attendre plus de 10 ans avant de toucher quelques centimes en droit d'auteur.
Vous savez quoi ? Il aurait été là, Eugène Saccomanno, il aurait râlé parce que ça roule trop mal dans Paris. C'est pour ça que vous n'étiez pas avec nous. On a déjà fini, on a déjà plus de temps. Vous voulez dire le mot de la fin, Denis Brognard, dire aussi, parce que la gentillesse qu'il avait avec les jeunes.
Avec les jeunes, franchement, il a toujours été extrêmement prévenant. Et quand je vois sur les réseaux sociaux les Rousseau, les Tissier, les Cessieux, on était des gamins avec lui. Et aller dans son bureau, c'était déjà aussi l'écouter raconter des histoires, parce que c'était un formidable conteur aussi. Il aimait raconter des histoires.
Merci Denis Brognard, merci Dominique Grimaud, Jacques Vendroux, le dernier grand, il ne reste plus que vous, avec Sacco et avec tout le monde l'a dit, avec Thierry Roland.
Merci de me le rappeler.
Et peut... mais quelle amitié, mais quelle énergie. Le prochain match que vous commentez, parce qu'on peut toujours vous entendre sur Radio France, Jacques Vendroux.
France-Turquie, France-Turquie.
Voilà. On y sera, merci beaucoup à vous, merci Jacques, merci à tous. Culture Média continue après le rappel des titres, on va parler culture, on va recevoir Enora Malagré pour son livre Un cri du ventre, la blonde incendiaire qui raconte l'endométriose. Et puis dans Les Indispensables, on va parler de slam avec Grand Corps Malade et puis théâtre avec la pièce L'Heureux Stratagème qui a conquis Thierry Geffrotin.
Et tout ça, c'est sur Europe 1.